De son côté, Holmes s'était isolé dans notre meublé de Baker Street. Son goût pour la bohème s'accommodait mal de toute forme de société. Enseveli sous de vieux livres, il alternait la cocaïne et l'ambition. Il ne sortait de sa torpeur de la drogue que pour se livrer à la fougueuse énergie de son tempérament. Il était toujours très attiré par les criminologies. Aussi occupait-il ses dons exceptionnels à dépister quelques malfaiteurs et à élucider des énigmes que la police officielle désespérait de débrouiller. Cette semaine, Bollywood sera versus...
Holmes, je suis votre médecin.
Il sera bientôt à nouveau tout gaillard.
Je suis votre ami. Cela fait 15 jours que vous êtes dans cette pièce. Je vous en conjure, il faut que vous sortiez.
À mes yeux, il n'y a rien qui présente un intérêt quelconque. Au dehors, sur Terre.
Êtes-vous libre ce soir?
Libre comme l'air.
Pour dîner?
Magnifique.
Le Royal?
Que rêver de mieux.
Mary sera des nôtres.
Ce soir, je prie.
Voilà!
Piccadilly hai sare aaj taang utha ke
Bonjour Julie Watson.
Bah pourquoi c'est moi Watson?
Bah parce que c'est moi qui dirige l'épisode aujourd'hui, alors voilà, puis il est docteur Watson, du coup ça colle avec toi.
C'est vrai, bon t'as raison, j'accepte, cet argument est valide. Bonjour à tous nos Sherlockiens, bonjour à toutes nos Sherlockiennes et bonjour à Madame Holmes. Bonjour Melanie Holmes.
Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?
Mais très bien, ah là là, je suis très contente de la thématique d'aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons parler de mon Hercule Poirot à moi, tu vois, donc je suis très contente.
Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de Samrat & Co. Donc c'est un Bollywood, évidemment, de 2014, qui dure 2 heures, avec des gens qu'on ne connaît pas, Rajiv Khandelwal, Madalsa Sharma, Chakraborty, Gopal Dutt et Smita Jekar. Et comme vous l'auriez compris avec notre introduction, c'est un film qui s'inspire des aventures de Sherlock Holmes, donc un personnage fictif, un détective privé créé par Arthur Conan Doyle à la fin du 19e siècle. Donc Sherlock Holmes a fait sa première apparition dans le roman Une étude en rouge en 1887, très exactement. Et donc, si je dis pas de bêtises, donc Arthur Conan Doyle a écrit 4 romans et je sais plus combien de nouvelles sur Sherlock Holmes. Et enfin, vous le connaissez forcément, c'est The Détective avec Hercule Poirot, quoi. On peut pas ne pas connaître Sherlock Holmes. Il y a eu des films, il y a eu une série, enfin même plusieurs séries, dont la plus célèbre actuellement, c'est la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup Sherlock. Bon, je préfère Agatha Christie et Hercule Poirot. Si vous n'aviez pas écouté notre épisode sur Gumdam, je vous invite à le faire pour comprendre un petit peu ma hype. Mais j'aime beaucoup l'univers de Sherlock Holmes. Je trouve ça très, très sympa.
Ah, et mais
toi,
oui,
tu
mais...
aimes bien Sherlock Holmes?
Mais au moins, comme ça, on se les partage. Tu vois, il n'y a pas de jalousie. Toi, tu as Agatha et ton Hercule Poirot. Ambiance petit thé, petite moustache, pépère tranquille. Et moi, j'ai Sherlock. La fin du 19e siècle, la cocaïne, les tables tournantes. Voilà, j'aime Sherlock, son côté asocial, voire même avec la série, ils ont carrément fait de Sherlock un Asperger. Et voilà, non mais c'est passionnant, on reparlera un petit peu aussi des films de Guy Ritchie avec ce célèbre Robert Downey Jr. et notre ami Jude Law. On en reparlera un petit peu. Juste pour revenir sur le film, il a été réalisé par Kaushik Ghatak. Et si ça ne vous dit rien, c'est normal parce que le mec a quasiment rien fait. Le gars en fait a surtout travaillé dans les séries TV. Il est surtout connu pour ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ce film ressemble à ce film. C'est-à-dire que ça ressemble plus à une série TV pas très cher que un véritable film. Et globalement, le réalisateur n'a réalisé que Samrat & Co. et un autre film qui, tous les deux, n'ont pas du tout été des succès. Donc je pense qu'il a compris que le cinéma, c'était pas pour lui.
C'est ça, parce que ce film, il n'a pas fait un bon score au box-office, il a reçu beaucoup de critiques négatives, mais tu sens quand même qu'il voulait en faire un deuxième, parce qu'à la fin, tu as une petite scénette qui sous-entend « Oh, on a une nouvelle enquête et tout ça, ah bah viens, on va y aller !» Mais sauf qu'il a dû se dire « Non, je vais pas faire de suite, en fait. »
C'est ça. Et si on fait un parallèle avec les deux adaptations les plus connues, quand je dis deux, il y a eu plusieurs volets, hein, mais c'est en gros la saga version film de Guy Ritchie et puis du coup la série de la BBC, c'est parce que c'est parmi les reproches qui sont ressortis, et on y reviendra en parlant du film, c'est vraiment très légèrement inspiré des films et de la série, hein, vraiment, mais alors léger. Hein.
Ouais, mais pas pour tout. Hein. On verra qu'il y a quand même des différences. Moi, je me suis dit, vous auriez peut-être mieux fait de vous inspirer de ce qui a déjà été fait pour tel ou tel personnage, parce que là, c'est une catastrophe.
Ah non, mais on est dans le pire du copycat, en fait. Franchement, c'est... Franchement, en plus, ils osent, Mélanie, s'attaquer à mon Sherlock. Là, je me suis dit, mais attendez, les gars, c'est un outrage encore plus élevé que d'avoir fait Béja Fry et le remake du Dîner de cons, quand même. Je suis scandalisée.
Oui. Parce que en vrai, tu vois, quand on reprend Gumnam, qui s'inspirait donc de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, ils assumaient pas... Enfin, il n'y avait pas de message clairement qui disait « Voilà, on s'inspire de l'œuvre d'Agatha Christie, tout ça. Ils ont voulu faire leur truc à leur sauce. » Bon, pour le coup, ça a quand même marché, tu vois. Mais là, ils te disent ouvertement qu'ils s'inspirent de Sherlock Holmes. De toute façon, au début du film, tu as des remerciements à Conan Doyle en disant que oui, Sherlock Holmes a été une grande inspiration pour eux. Mais franchement, quand j'ai fini le film, j'étais en mode, mais où est le respect ? Qu'est-ce que vous lui avez fait à ce pauvre Sherlock ?
Le respect est mort.
C'est un scandale. Mais oui ! Et franchement, j'étais choquée. Et pourtant, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire ce film. Puisque, vous l'avez compris, on adore toutes les deux cet univers. Et on s'est dit, mais c'est trop bien. Enfin, quand tu m'en as parlé il y a quelques semaines, j'étais en mode, oh, mais oui, mais bien sûr, un Bollywood qui s'inspire de Sherlock. Mais oui, on le fait tout de suite et tout. Et puis, voilà.
Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, il y a vraiment zéro respect, effectivement, ni dans le côté, on va reprendre les écrits de Conan Doyle et puis essayer de les adapter, tout ça... En fait, bon, de ce côté-là, c'est foiré, mais il n'y a même pas de respect envers, du coup, là où il puise la plupart de ses inspirations, c'est-à-dire la série et les films. Même là, genre, il y a zéro respect. Genre, c'est pompé, mais c'est mal pompé. Et il y a même des trucs qui sont pompés de films Bollywood aussi. Mélanie, je pense qu'à un moment donné, on en discutera.
Oh, mon Dieu.
Et...
Si on pense à la même scène.
Oui. Je pense qu'on parle de la même scène. Mais voilà, tu te dis, bon, vous l'aurez compris, c'est un échec et on va pas être très gentil aujourd'hui, mais on sait que vous aimez bien ça aussi. Ce que je voulais dire, c'est que, en vérité, en Inde, il existe un autre très célèbre détective qui s'appelle Byomkesh Bakshi. En fait, c'est un détective bengali. C'est une œuvre qui a été écrite au Bengale par Sharadindu Bandyopadhyay. Et voilà, pareil, donc c'est un personnage qui est quand même très inspiré du Sherlock de Conan Doyle, mais qui quand même s'en éloigne un petit... Enfin, pas tant que ça, parce que c'est un détective. Lui aussi, il a son petit sidekick, il a son petit acolyte qui s'appelle Ajit Kumar Banerjee. Ils vont vivre un petit temps ensemble, c'est son assistant, c'est son chroniqueur. Mais à la différence, c'est que ce détective-là, lui, il va vraiment avoir une vie. C'est-à-dire qu'il a des parents, il a une femme, il va avoir un enfant. Donc on est très loin du Sherlock aromantique et asexuel écrit par Conan Doyle. Et voilà, donc on a un espèce de héros investigateur. On est plus sur un Hercule Poirot, d'ailleurs, je trouve, que sur un Sherlock Holmes. Et donc, il a été inventé en 1932. Il y a eu à peu près une trentaine de récits, 32, qui ont été écrits donc, entre 1932 et 1970. Et donc, comme c'est un peu le détective indien, il a eu le droit à plein d'adaptations à la TV et au cinéma, dont une d'un très célèbre réalisateur qui s'appelle Satyajit Ray, et également une version Bollywood avec Suchant Singh. Donc c'est l'acteur, je ne sais pas si tu te souviens Mélanie, c'est le jeune acteur qui s'est suicidé il y a... c'était en 2020.
Qui était dans Pékin. qui était dans Pékin.
Tout à fait, ouais.
Kansha, ouais.
Donc ouais, Sujan Singh Rajput, qui interprétait justement ce détective dans le film éponyme Détective Byomkesh Bakshi, que j'ai regardé également.
Ouais.
Alors c'est sûr que c'est de meilleure facture. Est-ce que c'est difficile en même temps?
Bah, on aurait peut-être dû regarder celui-là en fait.
Non, finalement, je préfère qu'on bitch sur celui-ci parce qu'il y a de la matière. Alors que Détective Byomkesh Bakshi, je pense que ça reprend bien le personnage, c'est très bien filmé, etc. Mais je trouve que le film manque énormément de rythme. Et j'ai trouvé que c'était un peu mou du genou et pas très captivant, honnêtement. Bon, il y en a qui aimeront, mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu mollasson. Et je me suis dit, putain, ça fait un... je vais énerver Mélanie, mais je me suis dit, putain, on sent qu'on est vraiment sur un Hercule Poirot à 17h à la TV. Oh putain, il est pas très rapide, le gars. C'est genre... Et je me suis dit, oui, on est très loin de Sherlock et de son excentricité et ses petites doses de cocaïne, quoi.
Mais d'ailleurs, puisque tu parles d'Hercule Poirot, j'en profite juste pour glisser qu'il y a quelques semaines pour mon anniversaire, mon copain il m'a offert l'intégrale en Blu-ray de la série Hercule Poirot. Et je sais que Julie me juge très fort pour ça et qu'elle est vraiment en mode « Ah, c'est vraiment une petite vieille, elle, c'est pas possible
hein. !» Ah, j'ai hâte qu'on fasse un après-midi ensemble chez toi. Je rigole, j'aime bien te taquiner.
Des scones et du thé. Et moi, je kifferais, tu vois, un petit plaid, des scones, du thé, Hercule Poirot. Moi, je suis contente.
Mais oui, je te taquine. Bon, si je racontais un petit peu de quoi parle le film.
Allez, vas-y.
Samrat est un super détective privé, à l'image du célèbre Sherlock Holmes. Lui aussi, il a son Watson, celui-ci étant aussi inutile que ce film. Au lieu de rédiger les aventures de son ami sous forme de roman ou de blog, il a décidé d'animer une émission de true crime à la télé pour être dans l'air du temps. Un jour, une jeune femme du nom de Dimpy, et non, il ne s'agit pas d'un nouveau Teletubbies, vient le trouver pour un grave problème. Le jardin du manoir familial, copie conforme du manoir hanté de Disney, est en train de mourir. Bon, à croire qu'il est plus facile de faire appel à un détective parodiant Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch, plutôt que d'aller faire un tour chez Gumver ou Jardiland. Sur place, Samrat fait la rencontre du père de Dimpy, qui semble avoir une obsession pour Shakespeare, nous rappelant ainsi subtilement les origines anglaises du célèbre détective privé créé par Conan Doyle. À grand renfort de fond vert immonde, Samrat apprend que le responsable de ces événements n'est autre qu'un étrange fantôme. Il va donc devoir mener une enquête approfondie et démêler le vrai du faux au milieu d'un tigre... Oh là là, d'un tigre. Il va donc devoir... Il manquait plus qu'un tigre, hein, remarque. Il va donc devoir mener une enquête approfondie et démêler le vrai du faux au milieu d'un tigre sans queue ni tête. That's the point. Eh oui, parce que ce Watson-là, il ne fait pas de chair élémentaire, mon cher Watson, on l'a droit à un petit « that's the point » parfaitement irritable.
Oh, mais j'ai cru que j'allais tuer au bout d'un moment, t'as vraiment envie de dire « ta gueule, ta gueule !» Mais t'as l'impression que c'est genre « ah, ça va être rigolo », tu vois, qui une petite... merde, je trouve même plus mes mots.
Je sais pas, un petit gimmick,
petite réplique,
vois,
tu vois. Ouais, voilà, mais en fait, c'est même pas drôle.
Non, c'est
t'as
nul.
T'as envie de lui dire de se taire.
Non, mais c'est ça, je pense qu'ils ont voulu introduire un pseudo élémentaire, mon cher Watson, qui n'est pas canon, ça n'existe pas dans les bouquins.
Oui.
Mais non, mais de toute façon, on va dresser tout un portrait du pseudo Watson indien, là. Alors lui, on va bien faire des costumes pour Milan.
Oh mon Dieu, oui. Mais qu'as-tu pensé du trailer, du coup ? Que tu as vu deux fois, apparemment, pour une raison que je ne m'explique pas.
Oui, alors pourquoi je l'ai vu deux fois? C'est parce qu'au bout de la première, je l'avais déjà oublié. Je l'ai... En fait, je l'ai vu, genre, il y a deux jours. Et après, je me suis dit... Mais il y avait quoi dans le trailer, déjà? Le seul truc dont je me souvenais, c'était qu'il n'existe pas avec des sous-titres. Et que du coup, c'est un pseudo-trailer qui dure à peine une minute. Donc, je ne sais pas d'où il sort, ce truc. Et donc, du coup, je l'ai revu une deuxième fois. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais reperdre une minute de mon temps. Ce ne sera rien par rapport aux deux heures du film. Mais ce trailer, un extrait près, il pourrait presque donner envie. Quand tu le regardes, bon, t'as l'impression qu'il faut plutôt regarder une série TV, mais tu te dis, ouais, allez, pourquoi pas, il doit y avoir du mystère, c'est pas trop mal. Tu sens pas trop encore les inspirations, si ce n'est la coupe de cheveux du pseudo Sherlock, là, de Sam Rath, mais tu te dis, ouais, ça peut passer. Bon, par contre, il y a un extrait qui est vers la fin du film, où là, ça te fait dire, est-ce que vraiment je veux tenter ma chance? Donc voilà.
Je crois que je vois de quel extrait tu parles. moi, j'ai regardé le trailer après le film parce que j'ai oublié de le regarder avant. Je prends tes mauvaises habitudes. Et en regardant le trailer, je me suis dit, en vrai, c'est con parce que ça a l'air bien quand tu le regardes. Tu dis, ah, il va y avoir de l'action, du mystère, des méchants, bon, des effets spéciaux un petit peu moches. Mais il donne assez envie, en fait. Mais il est pas, le film n'est pas à la hauteur des espérances que tu peux avoir en regardant le trailer. Du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai vu le trailer après, sinon j'aurais été encore plus déçue.
Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Il donnerait presque envie, il n'est pas si mal. Tu te dis juste, bon, la qualité de l'image, tout ça, n'est pas exceptionnelle, mais ça peut passer. Bon, en fait, une fois que tu as vu le film, tu fais, non. Mais d'ailleurs, Mélanie, en tant que bonne biatch, j'ai récolté pour toi trois avis de critiques journalistiques suite à la sortie du film.
Ah, j'en ai lu un peu sur Wikipédia, mais vas-y.
Alors, voici ce que dit l'Hindustan Times à propos de Sam Rath & Co. Le héros, surnommé STD, alors oui, il faut qu'on fasse un point sur cette blague. Parce que le gars te dit,
j'avoue,
je m'appelle Sam Rath, je sais plus trop quoi. Et en gros, mes initiales font STD. Et au début, j'avais pas trop capté, tu vois, je m'étais juste dit oui, bon, d'accord. Et d'un seul coup, dans ma tête, j'ai eu Rachel Bloom qui a chanté.
You've been tested for STD.
STD. STD. Tell me please. Et là, j'ai fait.
Mais en fait, j'avais pas.
Et là, je me suis
j'avais
dit,
pas capté, c'est ça. J'avais pas capté non plus, c'est là quand t'as commencé à le dire, je me dis putain, mais oui, STD.
Et donc pour ceux
parce
qui ne savent
pas. STD, c'est.
Voilà, oui, pour ceux qui ne savent
MST.
Pas, ça veut dire MST en anglais. Pour Sexual Transmissible Disease. Et là, je me suis dit, wait, ils ont vraiment fait cette blague. En plus, on te parle de Sherlock, excusez-moi. Genre, normalement, c'est le dernier personnage à qui tu associes une MST quand même. Et donc voilà, donc il y a une blague, c'est ça. Donc du coup, l'Hindustan Times nous dit « Le héros est surnommé STD. Les dialogues sont plus cheesy qu'un bloc de cheddar et le mystérieux meurtre est plus médiocre que ce que vous n'avez jamais vu. Ce film n'est pas fait pour les fans du genre, ni pour personne de manière générale.
» Oh la vache.
Ensuite, on a l'India Today qui a dit le film est une tentative très amatrice de créer un thriller. On souhaiterait que le film s'achève à l'entracte, plutôt que de continuer à s'enfoncer dans sa stupidité. Même la production est purement et simplement de mauvaise qualité. Et enfin, un petit troisième pour la route. DNA India a écrit donc à propos du film. Le problème de ce genre de film est qu'il s'achève entre quelque part et nulle part. Ouais, j'ai fait une grosse pause parce que, en lisant ma phrase, j'étais quoi ? Entre quelque part et nulle part. Ni thriller intelligent, ni parodie du genre, le film est juste là pour tester votre patience à chaque scène. Par ailleurs, essayer de donner au héros la coupe de cheveux de Robert Downey Jr. était une idée désastreuse. Ah, ça a taillé sévère, hein ?
Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, quand je le regardais jouer, le gars. Je trouve vraiment qu'en plus, il avait des mimiques et des faux airs de Robert Downey Jr. Et je me suis dit, putain, vous êtes tellement abusé, quoi.
Bah, ça a fait partie des critiques qui sont ressorties. C'est que là où ça paraît ultra naturel, parce que ce sont des bons acteurs, chez Robert Downey Jr. qui cabotine un peu, et chez Benedict Cumberbatch, bah, lui, tu sens qu'il force. Et en fait, il n'y a rien de naturel dans sa façon de faire. Et tu sens qu'il a voulu, en fait, vraiment recopier le style de Robert et de Bénédicte, oui, je les appelle par leur petit nom, et que du coup, il n'a pas réussi à développer son propre personnage Sherlock, et du coup, bah, ça fait juste ridicule.
Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est dommage. J'avais des espoirs qui ont été fort, fort déçus.
Bah oui, parce que surtout que jusqu'ici, les adaptations étaient plutôt bonnes. Donc, on peut faire un petit point, Mélanie, sur les films et sur la série. Tu as un avis sur ces adaptations? Parce que, souviens-toi, quand on a fait l'épisode sur Agatha Christie, on a parlé d'un côté un peu puriste. Est-ce que les adaptations fonctionnent bien? Est-ce que on aime bien que tout soit repris à la virgule près, etc., etc. Donc, du coup, toi, tu te positionnes comment par rapport aux deux, à ces deux adaptations-là?
Alors, vu que je suis moins fan, entre guillemets, de Sherlock Holmes, du coup, j'ai pas vraiment ce côté puriste. Donc, l'adaptation de la BBC, bah, de Stephen Moffat et de Mark Gatiss, je la trouve vraiment excellente. Et c'est vraiment, ça reste une de mes séries préférées. Je la trouve vraiment très, très bonne. Les acteurs sont vraiment exceptionnels. Et de toute façon, enfin, les Anglais, en termes de séries, je trouve qu'ils sont toujours très, très bons. Et quant au film avec Robert Downey Jr. et Jude Law, je les trouve excellents aussi. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du mystère. Les acteurs sont très très bons aussi et ça reste des films que je revois avec plaisir. Voilà. Après, j'ai pas vu la série américaine qu'ils ont fait. Mais en fait, avec le succès de Sherlock, ils avaient voulu créer en Amérique eux aussi
Ah
leur
oui,
série qui
Watson est
s'appelle
une femme.
Elementary. C'est ça. Et je crois que j'avais regardé vite fait un épisode quand ça passait à la télé, mais ça m'avait pas. En fait, moi, je préfère vraiment les séries anglaises. Je trouve que ça a plus de charme, plus d'intrigue, plutôt que les séries américaines.
Oh, franchement, ça se discute, hein. Il y a des séries anglaises, elles sont pas ouf non plus. Ils sont bons,
Par
mais
exemple, la
pas sur
série
tout.
Hercule Poirot est exceptionnelle. Doctor Who, bon, c'est
Ouais,
un
ça aussi, ça se
phénomène
discute.
aussi. Ouais, bref, les goûts et les couleurs. Mais en général, voilà, je préfère la façon dont font les Anglais que plutôt les Américains.
Ouais, bah encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. En fait, j'ai pas de problème à ce qu'une adaptation prenne des libertés du moment que ça respecte en fait l'essence des bouquins. Donc là, en fait, pour ces deux adaptations-là, moi, je suis conquise. D'ailleurs, petite anecdote, le fait que l'on fasse cet épisode, c'est parce que je suis dans une grosse période Sherlock Holmes où j'ai tout repris, où je me suis refait les films, la série, et du coup j'étais là, mais attends, mais est-ce qu'il existe un Sherlock indien? Et donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, oh, Mélanie, tu sais pas ce que je viens de trouver? Et donc c'est la raison pour laquelle en fait on fait ce film. Et
Ah,
oui.
je savais pas que tu étais en train de tout te refaire.
Eh si. Et donc c'est justement
Oh, j'ai envie de me
pour
refaire
ça.
Sherlock là.
Si j'abusais, je dirais que j'ai envie de me faire Sherlock, mais ça, c'est une autre histoire.
Aussi, aussi.
Bref, et donc je trouve que les deux sont des très bonnes adaptations. À un détail près, si je pouvais chipoter un petit peu, je me souviens que quand sont sorties ces deux adaptations-là, bon, je les trouvais déjà fabuleuses, mais j'avais un peu râlé en tant que bonne puriste, parce que forcément, ils ont voulu caser une espèce de tension amoureuse et sexuelle avec Irène Adler, qui est l'une des rares à être présente en fait, dans les nouvelles, à être un personnage féminin qui est présent, parce que ça tourne souvent autour des hommes. Et il faut savoir qu'en fait, dans les nouvelles de Conan Doyle, Irène Adler a quasiment, enfin, a très très peu de place. C'est une nouvelle, mais elle fait partie des nouvelles les plus courtes, et il n'y a absolument aucune tension amoureuse ou sexuelle entre Sherlock et Irène Adler. D'ailleurs, John Watson l'écrit lui-même. N'essayez même pas d'imaginer qu'il peut se passer quelque chose, c'est impossible, c'est pas dans l'esprit de Sherlock. Ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs c'est assez moderne pour l'époque, parce qu'on est du coup à la fin du 19e siècle, et le héros est quand même aro-ace, donc aromantique et asexuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Il n'a pas besoin d'être amoureux de quelqu'un, il ressent pas ce genre d'attraction, ni également d'attraction sexuelle pour un homme ou une femme, peu importe. Et donc c'est assez moderne pour l'époque, et nous, il a absolument fallu, enfin je dis nous, les Américains et les Anglais, qu'on nous case une espèce de romance, parce que rendez-vous compte, ce serait trop bizarre d'avoir juste des histoires avec deux BFF hommes, et qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui vienne titiller ce personnage de Sherlock qui est très froid et qui a l'air d'avoir du mal à avoir des relations sociales. Et donc je me souviens que ça m'avait un peu saoulé. Parce que, puis même, Irène, enfin, il la croise quasiment pas. À la fin, elle se barre en disant « Au fait, j'ai trouvé un homme que j'ai aimé, que j'ai épousé en secret, je m'en vais avec lui. » Et du coup, tu te dis « Bah, non, mais il y a zéro raison de leur créer une espèce de liaison. » Et donc, ça m'avait un peu gonflé. J'étais un peu « petite puriste que j'étais. » Bon, après... J'ai pardonné parce que dans les films, c'est Rachel McAdams et que j'aime beaucoup l'alchimie qu'elle a avec Robert Downey Jr. Et dans la série BBC, je n'ai plus le nom de l'actrice, mais l'épisode est génialissime parce que jamais j'aurais pensé voir Sherlock dans un épisode relativement autour du BDSM. Donc voilà, j'ai pardonné ce petit écart d'adaptation.
Ah, c'est bien. Mais il me semble d'ailleurs que dans les bouquins, il la considère aussi comme genre la femme, parce qu'il la considère aussi comme étant son égale intellectuellement, et qu'il la trouve exceptionnelle de ce point de vue-là.
Ouais, bah du coup, j'ai relu la nouvelle, hein, évidemment, puisque je suis en pleine, en pleine période. Ouais. En fait, c'est vrai que, effectivement, il l'appelle la femme, en tout cas, c'est ce que John Watson nous dit.
The woman.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut remettre un peu dans le contexte. On est sur la fin de l'ère victorienne. Les femmes sont voilà, avec des carcans sociaux très très forts, l'étiquette est très forte. Généralement, elles sont cantonnées, voilà, être femme de maison ou alors ouvrière, etc. Bref, pas du tout les égales des hommes. Et dans la nouvelle, ce qui bluffe en fait Sherlock, c'est qu'à un moment donné, elle va réussir à le doubler, à être plus rusée que lui, en tout cas à le devancer. Et surtout, c'est la façon dont elle s'enfuit, c'est-à-dire qu'elle s'enfuit en s'habillant en homme. Et pour l'époque, c'est juste pas possible, en fait. C'est assez scandaleux de dire que, bah, y a une... En plus, elle se marie en secret, dans une église. Donc du coup, ça fait vraiment femme indépendante, libre, et qui casse tous les codes sociaux de l'époque. Et c'est pour ça qu'il considère que c'est la femme. Mais voilà, faut remettre un peu dans le contexte historique aussi pour comprendre que c'est pas du tout parce qu'il se dit « Oh mon Dieu, c'est la belle gosse de ma vie
!» Coup de foudre.
Elle m'a mis un coup de cravache.
Oh.
Ah, c'est ce qui se passe dans la série.
C'est drôle.
Ah, cet épisode est génial.
Je sais, je m'en rappelle. Juste une petite anecdote. Quand je suis allée à Londres il y a 3 ans pour voir ma meilleure pote qui habite là-bas, je lui ai dit « Emmène-moi au musée Sherlock Holmes sur Baker Street ». Alors juste, je veux juste vous avertir, ça coûte 15 livres et il n'y a pas grand-chose à voir. C'est juste, en gros, ils ont reconstitué l'appartement tel qu'il était dans les bouquins, avec des mannequins qui font penser à toutes les différentes enquêtes de Sherlock Holmes. Donc c'est tout petit, vous attendez longtemps, c'est très cher pour ce que c'est, donc je voulais juste vous mettre en garde là-dessus, voilà.
Donc du coup ça vaut pas trop le coup.
Donc oui, non, ça vaut pas trop le coup.
Ok. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Voilà, on va s'écouter une petite musique et puis on va s'attaquer à la bête. S'ouvre sur des remerciements donc à Conan Doyle. Avec leur cul, je me dis plutôt que le pauvre doit être en train de se retourner dans sa tombe. Parce que franchement, on se retrouve dans un manoir, dans une montagne enneigée. Et on voit qu'il y a un monsieur dans sa chambre qui guette par la fenêtre et qui a l'air de grave flipper. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Transition, on se retrouve chez Samrat et un jeune homme, alors on ne connaîtra jamais son nom, mais en gros j'ai l'impression que c'est un petit peu genre le serviteur de Samrat, qui va ouvrir la porte à Chakradar, c'est ça, moi je l'ai appelé Watson tout le long.
Ah, je l'ai appelé Watson aussi, ouais, parce que le seul dont j'ai retenu vraiment le prénom c'est Samrat.
Et donc Chakradar Watson, en gros... Il passe à la télé, et c'est ce qu'on disait dans le résumé tout à l'heure, il anime une émission de true crime, en fait. C'est fini les petits romans ou le blog dans la série. C'est vraiment, il passe à la télé, il fait du true crime, il raconte toutes les enquêtes.
Il fait les enquêtes impossibles de Pierre Belmar, tu sais.
Ah, c'est trop ça!
Mais avec vachement moins de classe.
Ah ouais, mais franchement, il a l'air... Enfin,
non, mais anecdote, j'ai eu une grande passion pour les émissions de Pierre Belmar sur les enquêtes impossibles. Alors, je pense que c'est... Alors, vous l'avez compris, j'ai adoré Sherlock étant petite, j'ai toujours aimé la science. Moi, j'étais un peu... Je rêvais au départ de rentrer dans la police scientifique. Et bon, après, je me suis rendu compte que c'était pas si intéressant que ça, mais en termes de job, donc j'ai préféré partir dans la recherche directement. Et du coup, j'avais une passion pour les enquêtes et les énigmes. Et du coup, j'adorais les émissions de Pierre Belmar que je regardais vraiment de façon religieuse, en mode « Oh mon Dieu, tant de mystères !» Voilà, c'était l'anecdote.
Et après, c'est moi la vieille, hein. Mais bah, tu te rappelles la youtubeuse qu'on a vue au salon du livre, Victoria Charlton? Bah, c'est ce qu'elle fait, en fait, sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil parce que, voilà, moi, j'adore le true crime aussi. C'est, voilà, les histoires un peu glauques et tout ça, je kiffe. je suis tout à fait normale, hein, je ne suis pas une psychopathe. Je ne suis pas comme Julie, je n'aime pas voir les gens souffrir particulièrement, mais j'adore le true crime. Bref, transition, match de boxe entre Samrat et un gars qui s'appelle Christo. Et là, j'ai marqué gros parallèle avec le film avec Robert Downey Jr. Hein. On est d'accord là-dessus.
Ah, mais c'est même plus un parallèle, c'est carrément une reprise des mouvements et tout. Le problème,
il faut que je frappe là et tout.
Sauf que c'est cheap, c'est mal. En fait, comme c'est mal filmé, ça fait cheap. Les ralentis sont moches. On n'est vraiment pas dans le style très saccadé, en fait, de la scène de boxe avec Robert Downey Jr. où tu alternes entre des ralentis et des mouvements plus saccadés. Du coup, les images s'accélèrent. Où les scènes sont hyper stylées, et là t'es plus vraiment en mode tiens, j'ai fait un ralenti et tout, mais oui, c'est totalement pompé sur la version de Richie.
Tout à fait. Il va gagner le match, et vu qu'il est gentil, il donne son argent à une œuvre de charité. J'étais ah bon.
Ah bah oui, okay. Parce qu'en plus il est généreux.
Tu me diras, peut-être qu'ils ont voulu faire un parallèle avec Sherlock Holmes qui emploie pas mal d'orphelins pour ses enquêtes et qui leur donne de l'argent en échange, je sais pas, peut-être que c'est ça.
Ouais, enfin après Sherlock c'est pas non plus une œuvre de charité, hein. Il le fait parce qu'il trouve que c'est un réseau qui marche vachement mieux,
oui,
que la police.
Oui, écoute, j'essaye de trouver... J'essaie de trouver un parallèle.
Mais du coup, on a pas que ça comme... Attends. Mais cette scène...
Ah pardon.
Moi c'est cette scène-là qui en plus est fait aussi un parallèle avec Bollywood. Et je suis étonnée que tu ne l'aies pas relevé.
Ah mais oui, Happy New Year.
Mais oui, parce que le gars, une fois qu'il a gagné son match de boxe, il marche aussi au ralenti avec son gilet. En plus, c'est exactement le même gilet ouvert sur lui et tout. Et c'est exactement la même scène que dans Happy New Year, quand il y a Shahrukh qui a gagné son match de boxe et qui avance comme un gros BG en mode « Eh ouais, j'ai gagné et tout, je suis stylé. » Et là, je me suis dit « Ah oui, alors si tout le film est comme ça, on n'est pas rendu. Hein. »
Mais ils datent de la même année, en plus, les films. Il a dû dire « Ah, ça marche avec Shahrukh, ça va marcher avec moi. »
Ouais, mais le charisme n'était pas là. Hein.
Ah, ça. Et donc, il y a une jeune femme du nom de Dimpy Singh qui vient à l'appartement de... Merde, Samrat. À chaque fois, j'ai envie de dire Sherlock. Et évidemment, il arrive et il devine absolument tout sur elle. Elle est en mode « Ah, mon Dieu, mais comment vous le savez ?» tout. « Ah, mais c'est simple. Déjà, il y a votre nom sur votre valise. Puis, oh là là, vous faites de la guitare parce que votre vernis il est écaillé à votre main gauche. J'étais « Ah oui !»
Mais déjà là, on enchaîne les espèces de blagues nulles. Genre, elle lui fait... On le voit dans le trailer, elle lui fait « Vous avez un sixième sens ?» Il lui fait « Ah non, un septième !» Et là, tu fais... Ok, donc ça va être le niveau des blagues aussi. Bon, ça va être compliqué.
Et alors là, il y a la pire blague de tout le film. Donc, il y a chaque radar qui arrive et qui dit « Eh, bah en fait, lui, c'est Sherlock et moi, je suis Watson. » Ah, d'accord.
Ouais, parce qu'il fait un jeu de mots avec Watson en plus. En coupant en deux le truc, au début, il fait une pseudo-phrase. Alors, on peut pas trop vous le retranscrire en anglais-français parce que ça marche pas, mais il lui dit genre « quel fils ?» en mode « what son ?» Ah oui. Et après, il fait « Watson !» Et là, tu fais « Oh là là, j'en suis à combien déjà 10 minutes de film ?» Waouh.
Oh, ça va être long.
Et c'était long.
Mais est-ce que tu veux faire un point sur Watson tout de suite?
Oui, alors ouais. Alors déjà, il feint très mal de conduire. Ça, c'est un truc que je me suis noté, je sais pas si t'as fait gaffe, toutes les scènes où ils discutent dans les voitures et qu'ils font style qu'ils conduisent. Enfin, je veux dire, même les gens dans les années 50, quand ils faisaient semblant de conduire dans une voiture et que les mecs passaient les décors derrière, faisaient mieux que ça. Les eux, ils sont vraiment là à tourner le volant comme des débilos. C'est chiant, mais là, t'es pas en train de conduire, t'es en train de faire un AVC sur ton volant, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais s'ils arrivent même pas à faire semblant de conduire, mais comment ils vont réussir à faire semblant de faire tout un film? C'est terrible. Et donc, ouais. Watson, non, mais... Watson, c'est une catastrophe.
C'est même pas un docteur, déjà. C'est même pas un médecin. Et ils ont pris un gars, on lui a dit, vas-y, joue le teubé inutile.
Moi, je me suis dit, on dirait un espèce de Ritesh. En plus, il a une voix qui est hyper similaire.
Oh mon Dieu!
Il a une voix qui est mais hyper similaire à Ritesh. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est son frère, c'est son cousin, je sais pas. Et c'est vraiment le même genre de rôle, d'espèce de comique, sidekick, débile au possible, comme fait Ritesh assez souvent dans les films. Et là, je me suis dit, ah putain, on a un Ritesh number two, ok.
Ah oh, putain, mais oui, j'avais pas fait le rapprochement. Mais t'as raison, c'est un Ritesh numéro 2.
Ah, c'est vous savez pas de qui on parle de Ritesh Deshmukh, c'est son nom d'acteur. Voilà.
Qui est dans Houseful avec Akshay.
Tout à fait.
Mais ouais, donc en fait, c'est un personnage qui est débile, qui est inutile.
Qui parle trop.
Qui parle tout le temps, qui est froussard, qui ne cherche pas à enquêter. Là où on peut avoir un Watson qui est quand même sérieux, intelligent, pragmatique, qui apporte une véritable aide à Sherlock. Et bah là, non. Ils se sont dit, hey, on va en faire un débile.
Voilà. Bah oui, parce que normalement, John Watson, il est là pour équilibrer tout le côté hyper excentrique de Sherlock, tout son côté cerveau qui réfléchit beaucoup trop vite pour lui, et puis qui ne connaît pas tout bien des codes sociaux ou de la culture G, parce qu'effectivement, Sherlock trie les informations, et du coup, il y a des trucs évidents que lui, il n'a jamais retenu. Et donc, à côté, normalement, la figure de Watson est très posée, sympathique, c'est le quota humain quand même de ce duo. Et
oui,
là,
voilà.
Et là, on a donc Sam Rath, pseudo Sherlock, qui est juste là pour essayer de faire le BG en mode ouais, moi je fais ça et tout. Il a rien d'excentrique, hein, c'est vraiment Monsieur Lambda qui fait des déductions plutôt pas trop mal. Et à côté, t'as un Watson qui est juste un débile qui l'accompagne, qui est là pour faire des blagues. Mais qui sont pas drôles et qui parlent beaucoup trop, et vraiment, t'as vraiment envie de dire, mais franchement, mais ta gueule en fait, arrête de parler, t'es chiant, t'es super chiant.
Moi, je voudrais juste dire un truc, je reviens juste sur la série Sherlock de la BBC. On est d'accord que c'est une des plus belles bromances qui existent.
Mais même dans les films, mais c'est pour ça aussi que moi j'adore. Sherlock et John, parce que je trouve que c'est une superbe bromance et ça fait trop du bien de temps en temps d'avoir des amitiés comme ça masculines à l'écran. Et ouais, j'adore ce duo. Je trouve que ça nous rapproche de ces duos qu'on a adoré dans Mangal Pandey ou dans RRR qu'on est allé voir là. Ça fait du bien ce genre de duo qui fonctionne. Ouais, non, ils sont grave touchants, j'adore.
Ouais, donc là, dans le film, ne cherchez pas la bromance, il n'y en a pas. Donc, Dimpy, elle dit, ah, bah voilà, les arbres et les fleurs du jardin du manoir, donc c'est le manoir du tout début, hein, sont en train de mourir. Ah, puis il y a le cheval de mon père qui est mort aussi. On pense que c'est peut-être la vengeance d'un ancien jardinier qui est mort. Et mon papa, il n'est pas bien non plus. S'il te plaît, accepte l'enquête. Voilà. Donc, moi, je vais me dire, mais écoute, va prendre un petit peu de terreau à Truffaut. Je sais pas, mais fais pas, je sais pas combien de kilomètres pour venir chercher un détective privé. Et donc, ils vont tous s'envoler pour Shimla. Alors là, il n'y a plus de neige tout d'un coup. Donc, j'ai pas très bien compris en quelle saison on était. Puisqu'après, je pense qu'on est en hiver parce qu'après, la neige revient encore. Mais je sais pas, la timeline est mal foutue. Je comprends pas combien de temps Sam Rath, il reste là-bas. Parce que c'est mal branlé, je trouve, au niveau de la timeline. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le manoir est la copie conforme du manoir hanté de Disney ?
Ouais, il y a un côté un peu comme ça, ouais, je vous.
Mais franchement, au début, j'ai eu un bug. Je me suis dit, mais attends, normalement, c'est là où on fait la queue avant d'entrer dans le manoir.
En fait, ils sont allés à Disneyland, c'est pour ça, ils n'ont pas compris,
C'est
l'arbre,
ça.
c'est un décor. Mais ouais, non, parce qu'en fait, ils sont donc à Shimla, donc du coup, c'est dans les montagnes, c'est tout au nord de l'Inde.
C'est le
Et à chaque fois, je me
nord.
dis, parce que, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas, parce qu'effectivement, ils sont jamais très habillés, donc tu te dis, bah ça va, t'as pas trop froid, et en même temps, tu te dis, ouais, on est dans les montagnes enneigées, et puis à un moment donné, t'as une chanson, et t'as genre des feuilles d'automne qui volent, et je me suis dit, bah, en fait, c'est quelle saison, là, exactement? Donc du coup, tu sais pas trop si, on va dire que c'est peut-être l'automne, et du coup, voilà.
Et qu'est-ce que c'est que ce manoir perché en haut d'une falaise où il n'y a personne d'autre?
Mais c'est classique. Mais on le verra un peu plus tard pourquoi ils ont choisi une location comme ça. On le devine hein, au bout d'un moment de c'est quoi le parallèle avec les histoires de Conan Doyle. Le pourquoi du manoir perché dans les hauteurs avec du vide à côté.
Ah mais oui, oui.
Oui. Et on n'a pas assez fait un point sur les cheveux de. Je sais qu'on vous a déjà dit que. Alors c'est vraiment une tentative. De faire la coupe de cheveux farfelue de Robert Downey Jr. dans les films. Mais c'est dégueulasse. Alors, j'hésite entre est-ce que ce sont ses vrais cheveux qu'ils ont foirés ou est-ce que c'est une perruque? Il y a même justement un journal qui a marqué, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux mousseuse dégueulasse? Et c'est vrai que c'est. Moi, j'ai un doute de si c'est des vrais cheveux ou pas. Franchement, je suis pas sûre.
Je sais pas, mais c'est vrai que ça fait pas du tout naturel en plus. C'est autant, tu vois, Robert Downey Jr., ça passe parce qu'en plus, enfin, je trouve que c'est un homme qui a beaucoup de charisme et beaucoup de classe naturelle, et ça lui allait extrêmement bien dans le film. Et justement, sa coupe, elle faisait naturelle. Mais là, c'est vrai que t'as l'impression qu'il s'est dit, ah, il faut que je me coiffe exactement comme dans le film hein, pour que ça passe mieux. Mais non, gars, c'est juste moche.
Ouais, c'est un peu bizarre. Bref, nos amis Sherlock et Watson vont rencontrer en fait un peu toute la famille, toute la dynastie d'Aristo qui vit dans ce manoir perché dans les montagnes. Donc il va rencontrer notamment deux frangins, il va rencontrer le...
Lala et Po.
Ouais, cherchez pas, moi j'ai pas noté les prénoms, hein. J'ai noté frangin 1, frangin 2.
Ah, Sanjay et
En plus, il y a
Vijay.
grave du
C'est
monde.
Sanjay et Vijay.
Il y a énormément
Mais j'ai pas
de
compris qui étaient tous ces
personnages.
gens.
Et donc, du coup, tu comprends qu'il y a. Attends, ils sont genre. Donc, t'as le père, qui est un très grand fan de Shakespeare. Tu comprends qu'ils sont genre quatre
Il a une de
gamins.
ses plumes.
Ouais, ils sont genre quatre gamins. Donc, t'as deux filles et deux garçons. Après, t'as les épouses, bah, du coup, des fils. Donc, du coup, ça fait des tonnes de gens. Tu fais, what? Je crois qu'il y a. Je sais plus s'il. Bref, donc du coup, on rencontre les frères, on rencontre donc le père qui est fan de Shakespeare. Moi, je m'étais dit, peut-être qu'il y aura une énigme avec Shakespeare. Bon, en fait, non, pas du tout. Et on rencontre
Mais oui!
la frangine,
Pardon.
muette et étrange, parce que il faut toujours que dans ces grandes familles-là, il y ait une espèce de folle dingo, celle qui, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, un jour elle est devenue mutique et on te dit ouais, c'est parce qu'elle a vécu un traumatisme et tout. Depuis, elle est un peu chelou et elle ne parle plus. Et ça
Alors.
aussi, ça m'a grave fait penser à Bulbulaya, donc le film avec Vidya Balan et Akshay Kumar. Et je me suis dit, mais ils ont un truc avec toujours cet enfant. Mais c'est classique aussi des séries TV ou des trucs comme ça où on te dit toujours, ah lui, ah, il est un peu spécial, c'est le gars de la famille ou la meuf de la famille qui a vécu un truc traumatique, on sait pas trop ce que c'est, mais depuis, on l'enferme dans la troisième chambre du quatrième étage, celle qui sort la nuit.
Bah, je t'avais dit que c'était le manoir hanté de Disney.
Mais c'est trop
Elle
ça.
s'appelle, alors, elle s'appelle Divya. J'ai noté que quand elle apparaît, c'est sur une musique mystérieuse pour te suggérer que, ouh là là, ça fait peur, hein. Et donc, il y a un des frères qui dit, ouais, elle a un traitement psychiatrique et tout, nanana. Et transition vidéo d'un fantôme dans le jardin. Donc, oui, regardez ce montage fait sur Windows Movie Maker. Il y a un fantôme dans le jardin. Alors, Watson a peur. Ils font tous des prières et tout et
Ouais,
tout.
il essaie de faire venir
Et
un
donc, il y a un
prêtre.
prêtre qui est là. Et donc, le prêtre, il va faire un petit nœud à l'arbre qu'il ne faut pas défaire. Ah oui, et sur la vidéo, enfin, parce qu'en fait, Samrat, il assiste pas à la prière, il est avec un des membres du personnel qui lui montre la prière en direct parce qu'il y a des caméras un peu partout dans la baraque. Et donc il dit « Ah bah alors ça c'est machine, alors ça c'est machin, ça c'est bidule, ça c'est truc. » Donc j'avoue que j'ai pas tout noté parce que j'étais un peu...
Mais c'est l'enfer justement, parce que dans cette famille ils sont genre déjà 10, et en plus on te montre le personnel de maison, donc t'as lui, après t'as une servante qui vient lui taper
t'as
la
les
dispute
voisins.
Pendant 20 000 ans, qui fait blablabla, qui l'espionne à moitié, et tu dis putain, elle je sais pas
Shanti.
C'est qui non plus. Et après on te montre les voisins, c'est... et là je me suis dit mais attendez, mais ils sont 20, je vais jamais me rappeler qui est qui. Il y a vraiment des moments où j'ai noté, il y a une femme qui est là, je sais pas c'est laquelle, mais elle est là.
Ouais, la meuf qui vient lui taper la discute, elle s'appelle Shanti, et apparemment elle a volé quelque chose et est kleptomane, mais c'est pareil, c'est un truc qui ne sert à rien, ça encore une fois.
Il y a plein de trucs qui servent à rien.
Et en fait, ils sont espionnés, lui et Watson, par Harry, le chauffeur, qui apparemment est fan de l'émission de Watson. Et bref, le lendemain, on s'aperçoit qu'il y a des fleurs qui ont repoussé dans le jardin, donc les gens sont contents, ils se sont dit « Ah bah la prière, ça a marché, hein, c'est bien !» Et Simrat, il est hyper intrigué, et il sort sa petite loupe portable. Mais c'est exactement
oui.
la même que dans la série Sherlock, dis donc, ça c'est un drôle de hasard.
Ah oui, c'est exactement la même.
Et j'ai vu le truc, je dis « Non mais... »
Toujours plus.
Vraiment.
Mais même, il a sa petite écharpe autour du cou, il a son petit, petit impair en laine. En fait, tu sens que ils se sont surtout inspirés de Benedict Cumberbatch pour ça. Un tout petit point positif que j'ai noté, je trouve qu'il y a certaines transitions de scène qui sont assez intéressantes et poétiques. Je sais pas si tu te souviens, par exemple, à un moment donné, il y a une transition entre... Samrat, en fait, il regarde le jardin, ça fait une composition avec un arbre, genre une balançoire et tout, et d'un seul coup, ça se fond et ça devient un tableau de la maison et ça reprend dans la maison. Bref, il y a quelques fois des petites transitions comme ça que j'ai trouvé pas trop mal et assez poétiques, et je me suis dit, oh, il y a quand même des choses sympas à retenir de ce film.
Ah, j'ai pas fait gaffe.
Et donc, comme ils sont très contents que le rituel du prêtre ait marché, ils se sont dit « Allez, boum boum fiesta, on part sur une soirée latino !» Et voilà.
Mais en soi, j'ai bien aimé la tequila. Musique. C'est la chanson de la tequila. Et on fait la connaissance de Dinesh Das, qui est l'avocat de la famille, qui est présenté à Samrat. Et Samrat, il dit « Hein, vous avez une tache d'encre sur le doigt. Laissez-moi deviner, le père a voulu changer son testament aujourd'hui. » Là, t'as l'avocat qui est en mode « Ah, mon Dieu, il a deviné !» Voilà.
Donc, pendant la petite soirée latino, d'un seul coup, quelqu'un hurle que Vijay, donc l'un des fils, a tué son père. Et donc, on se rend sur la scène de crime. Effectivement, le père est mort avec un coussin sur la gueule. D'ailleurs, il tient lui-même le coussin. À un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, la résolution, ils vont dire, il s'est suicidé, il s'est étouffé tout seul. Je m'attendais
oh, tu sais
à ça.
Tu sais que j'y ai pensé aussi. Mais après, je me suis dit, mais c'est nul comme façon de se suicider.
Ouais, mais à ce niveau-là, j'avais déjà plus d'espoir pour le film. Je me suis dit, vraiment, ça va être ça,
ouais.
La résolution. Et donc, on nous
c'est
explique
ça.
Que le majordome, en fait, non, il a entendu une dispute.
C'est ça, et que Vijay voulait de l'argent et que son père ne voulait pas lui en donner. Et donc, Vijay est arrêté par la police. Et sur les caméras de surveillance, on va voir que Anuj, qui est en fait le mec caché de Dimpy, et que caché, tout le monde est au courant qu'il existe, mais personne veut qu'ils soient ensemble, en gros, il serait venu en secret à la soirée. Du coup, Samrat se dit, mais attends, peut-être qu'en fait, c'est Anuj qui est le meurtrier.
Oui, parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de personnages. Hein. Franchement, là, c'est même plus un Cluedo. Hein. Ils sont 30 sur la liste des suspects. Moi, à chaque entrée de personnage, je me dis, oh non, putain, encore quelqu'un d'autre.
C'est ça. Et donc, Samrat va aller voir la police. Ah bah, il croise un inspecteur qui... Bah, ils se connaissent, ils étaient potes et tout. Et il lui dit, ah bah tiens, ça c'est un mec qui bosse avec moi, Khalid. Bah, Khalid, tu vas les aider et tout. Moi, je me casse.
C'est le Lestrade Khalid... qui sert à rien, en fait. On le voit pas.
Mais
mon pauvre...
Alors, au début... J'avoue, j'avais pas fait le parallèle avec Lestrade parce que je trouvais qu'il était nul comme personnage. Pas Lestrade, hein, Khalid. Mais en fait, le truc, c'est que ce policier-là... Au départ, quand il voit arriver Sherlock et Watson, oui, je vais les appeler comme ça, ce sera plus simple, il se dit, j'ai l'impression qu'il avait l'air hyper vénère de les voir. Et tout le long du film, je me suis dit, putain, mais en fait, ça se trouve, ça va être lui l'assassin. Et même pas.
En fait, ce qui est terrible, sachez-le tout de suite, c'est que je pense qu'on a établi, nous, 5 milliards de théories vachement plus crédibles et intéressantes que ce qui va vraiment arriver à la fin. C'est-à-dire que tu vois arriver des choses, peut-être que c'est lui, il est vénère et tout, nanana. Peut-être que... Moi, j'étais partie sur... Ouais, ils vont nous faire le coude, en fait. Le père voulait mourir parce qu'il avait une maladie. Et du coup, il a demandé à son fils de l'euthanasier en l'étouffant avec le coussin. Du coup, on pense que c'est le fils qui est meurtrier, mais c'était sur la demande de son père.
Oh, non, la vache, pas du tout. Partie loin. Bref, ils vont voir Vijay qui dit « Non, mais quand je suis arrivée, il avait déjà le coussin sur la tête, c'est moi qui lui ai retiré tout ça. » On apprend que le papa avait reçu des emails en langage codé.
Oh mon Dieu, la gueule des emails.
Et genre la tête de mort rouge et tout, genre en mode
« Mais on dirait c'est un truc des années 2000, c'est ignoble, c'est très moche.
Et donc Samrat va essayer de les décoder. Sauf que le soir venu, il va voir une lumière bizarre sur le balcon. Et en fait, il va aller voir et c'est Shanti qui se cachait dans la chambre du père. Sauf qu'on ne saura jamais ce qu'elle faisait là, parce qu'en fait, elle se cache de Samrat. Mais on ne saura jamais ce qu'elle était venue faire ici.
T'es sûr que c'est Shanti que... Parce que moi, j'ai noté que c'était Sunita.
Et c'est qui, Sunita?
C'est l'épouse de l'un des fils.
Elle a un prénom?
Ouais. Ouais, tu sais comment j'ai su son prénom? Parce que j'ai regardé le tableau des suspects à un moment donné où écrit Samrat, parce qu'il met des photos des gens où il fait ses petits traits en mode « Oh là là, ils sont tous reliés !» Et du coup, j'ai vu sa tête, j'ai vu son prénom à côté, je fais « Oula, faut que je note très vite, elle s'appelle alors, Sunita. »
C'est qui elle? C'est la femme de Vijay, c'est ça?
Je crois, ouais.
Ah bah du coup, ça explique pourquoi peut-être qu'elle était là pour enquêter, pour essayer de déculpabiliser son... C'est... de disculper son mari alors.
Peut-être, ouais. Mais du coup, il y a un autre truc qui m'a fait marrer aussi, c'est que donc t'as Samrat là qui nous fait sa visualisation mentale façon Bénédicte dans la bibliothèque. Et ce qui me fait rigoler, c'est que il décrypte le code et il dit ouais, vous avez vu, en fait c'était des menaces de mort à propos d'un secret à destination du père. Et je me suis dit, attendez, mais c'est lui qui vient de décrypter le code. Imagine, le père, il reçoit une menace de mort, sauf qu'elle est cryptée. Je me suis dit, mais si le gars, il n'arrive jamais à décrypter le message, il ne saura jamais qu'on lui a fait une menace de mort, en fait, qu'on a menacé de révéler son secret.
Eh ben si, parce qu'il y a une tête de mort rouge, donc ça veut dire menace.
Oui, non, mais j'étais bien la peine de crypter une phrase pour dire « je vais révéler ton secret ».
Mais j'avoue, moi, je reçois ça, je me dis « ah, ok, c'est un hacker qui essaie de me pirater mon compte, quoi, et je supprime ».
Voilà. Bref, donc du coup, avec cette histoire de « oui, il y a un secret dans votre famille, on n'aurait pas
deviné ».
Oui,
parce qu'il a trouvé des photos et qu'il s'aperçoit que le téléphone... J'ai pas compris le coup du téléphone qui aurait disparu.
Mais ça, c'est plus tard qu'on le voit.
Ouais, mais j'ai trouvé ça débile quand même. Enfin bref. Et ouais, donc le message, c'est « ouais, il doit payer pour ses vieux péchés, la mort et le prix et tout ». Et c'est la lecture du testament et la moitié va à un orphelinat. Et Vijay est pas content.
Ouais, et puis du coup, il y a une vieille histoire qui ressort où on te dit que, en fait, le père, il aurait été responsable de la mort d'un gars. Alors, j'ai pas trop suivi, moi j'ai juste noté qu'il était responsable
de toute une famille.
Ouais, en fait, de toute une famille. Et donc, du coup, il y aurait une vengeance vis-à-vis de ça.
Parce qu'il manquait un corps, en fait. Ils se sont aperçus qu'il manquait un corps. Et surtout, Anuj a disparu et on se rend compte qu'il a été élevé dans un orphelinat. Et là, Samrat, il dit oh, « mais c'est peut-être le petit garçon qui manquait dans l'accident qu'il y a eu 26 ans plus tôt et qui cherche à se venger. » Donc, il va s'introduire dans son appart, il va trouver de la coke et des vieilles photos. Et surtout, Dimpy, elle lui dit « j'arrive pas à le joindre au téléphone, gna gna gna. » Et j'ai pas compris parce qu'à un moment, il y a des photos d'eux. Mais je sais pas pourquoi, genre, il y avait un espèce de chantage avec, ou je ne sais quoi.
Non, parce que c'est des photos avec une autre meuf, je crois. Oui, parce que le gars qui a disparu, donc, c'est le copain de Dimpy, qui est donc la fille du propriétaire qui est mort. Et il me semble qu'il parle d'une histoire de photos compromettantes, où il serait avec une autre fille. Mais tous ces trucs-là,
Mais qui a pris les photos?
Je sais pas. Moi, franchement, j'ai pas cherché à comprendre ce film.
Oui, mais donc c'est une sous-intrigue qui ne sert à rien puisque personne n'en reparlera plus jamais après.
Ah, mais non, mais il y a que des trucs comme ça. Hein. C'est comme là le meurtre de la famille. Salut. Hein.
Ouais, et donc ils cherchent Anuj et vont trouver son corps dans la cabane au fond du jardin.
Mais ouais, mais du coup, tout ce qu'on apprend, c'est que le mec de Dimpy, qui donc elle ne savait pas que son gars était là lors de la soirée du meurtre, lui avait quand même dit par téléphone, en gros, bébé, au fait, je connais un secret sur ta famille. Donc le fameux secret là, de cette histoire d'éventuelle vengeance.
Mmh. Et plus tard, alors qu'ils sont en train de rouler en voiture, il y a un méchant qui leur donne une bombe, enfin une fausse bombe avec un message de menace. Et moi j'étais, ah ok, c'est nul.
D'ailleurs, elle est moche la bombe. Au début, j'ai cru qu'on lui avait filé un jouet en plastique. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle fait, oh mon dieu, c'est une bombe. J'ai fait, ah bon, ça c'est une bombe, d'accord. Oh là là. Ouais, donc c'est un peu en mode, ah, ne cherchez pas trop loin. Voilà, quittez cette affaire, quoi. Bref, on les menace. Et tout ça pour que, en gros, à un moment donné, par un grand système de déduction de Samrat, il retrouve, du coup, le boyfriend qui est mort depuis 3 jours dans une cabane de jardin.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà dit tout à l'heure. Ah bon ? J'ai dit qu'on l'avait trouvé. Oui, j'ai dit, il cherche à nous, j'y trouve son corps dans la cabane au fond du jardin.
Ah, pardon.
Et c'est après qu'ils ont le petit message dans la bombe. Et donc Samrat continue d'enquêter et la police lui dit, ouais...
Ah oui, mais parce que t'as pas dit qu'il avait fait un coup de pression à la famille.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il a reçu la bombe, c'est parce qu'il a fait un coup de pression à la famille en mode « Ah, je sais qui est le tueur !» Et c'est comme ça qu'il se retrouve à avoir une bombe, parce que quelqu'un dans la famille lui dit « Oh mon Dieu, j'ai peut-être été découvert, il faut que je le tue avant qu'il me démasque.
Mm-hmm. » J'ai pas pris la peine de tout noter. Bref, donc on apprend qu'Anouj serait mort en même temps que le père, donc ça se trouve ce ne serait pas lui l'assassin, hein, mais peut-être qu'il a juste été témoin de la scène et qu'on l'aurait tué ensuite. Alors, j'ai noté, Samrat rejoint Dimpy sur le balcon, incrustation moche.
Ouais, je sais pas. Moi, après, j'avais noté qu'il y a la folle dingo qui, du coup, attaque Watson vite fait, et c'est tout. D'ailleurs, elle l'attaque de façon pas très violente. Et en fait, mais pareil, cette scène, elle servira à rien. C'est juste pour te donner l'impression que peut-être c'est elle qui est violente, mais elle a tellement attaqué de façon presque gentille Watson, qui après se réveille, et c'est juste pour ça qu'on lui dit « En fait, tu comprends, elle est comme ça depuis le suicide de sa mère. »
Sous ses yeux, voilà, drama. Et il commence à suspecter le chauffeur Harry. Du coup, ils vont fouiller toute sa chambre, et on voit qu'il a prévu de partir à Mumbai, qu'il a plein d'argent caché... Et on va retrouver son corps sur la route, il a été renversé par une voiture. Donc t'as les policiers qui sont en mode « Ah, ça doit être un accident ». Et là t'as Watson qui fait « Samrat qui fait « Non, c'est un meurtre. Regardez, grâce à ma reconstitution mentale, j'arrive à le prouver ».
Alors moi, on voit qu'à ce moment-là, j'étais paumée parce que j'ai marqué « Beaucoup de pognon est trouvé dans les affaires d'Harry ». Entre parenthèses, pas capté qui c'est, le voisin, point d'interrogation. Vraiment, je savais plus. J'étais là genre, ouais, il y a quelqu'un, on me parle de quelqu'un, je sais pas qui c'est.
Bah, en fait, le gros problème du film, c'est qu'on te parle de plusieurs personnages, mais tu les vois pas beaucoup, en fait. C'est juste, on va te les présenter vite fait, ah, ça c'est machin et tout, et après, tu les vois pas pendant une demi-heure. Du coup, quand on t'en reparle, t'es en mode... Mais c'est qui ? On l'a
déjà
vu avant ?
Mais oui, mais carrément, il y a tellement de gens, ils n'ont pas vraiment de signes distinctifs, c'est hyper compliqué. Moi, j'étais vraiment là, il y a une meuf, il y a un gars, on me parle de machin, je ne sais pas qui c'est. J'en avais vraiment rien à foutre en plus. Donc,
est-ce que tu te rappelles, dans un épisode de Kaamelott, quand tu as Léo Dagan qui fait faire son portrait ?
Ah oui ?
Et que tu as Arthur qui ne le reconnaît pas ? Et qu'après, t'as Arthur qui montre la pièce où il y a son portrait à Perceval, et que t'as Perceval qui fait « C'est quelqu'un que je connais, et lui, il me connaît. » Et franchement, moi, le film, il me fait penser à ça.
Ah, c'est trop ça. Mais c'est vraiment ça.
C'est quelqu'un que je connais. Mais bref. Et du coup, il va soupçonner une des voisines, donc Narayani. Donc elle, c'est... comment ça s'appelle déjà en vrai ? C'est Smita Jekar, c'est celle qui joue la maman d'Eshwarya dans Umdil des Chukesanam et qui a joué dans Devdas aussi, qui jouait la maman de Devdas, je crois.
D'accord.
Mais elle joue toujours des rôles de maman. Et parce qu'en fait, il l'a vu faire du jogging et il trouve ça suspect, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Et du coup, il fait un rendez-vous secret dans un parc avec elle. Et elle explique, oui, j'étais avec le mec là, qui a été assassiné, le papa de Dimpy à la fac, et un jour il m'a fait une farce et je suis tombée dans l'escalier. On s'est jamais revus depuis, et quand on a déménagé il y a quelques mois, je me suis aperçue que c'était lui, je l'ai reconnu, mais lui il m'a pas reconnu. Et j'ai voulu lui rendre la monnaie de sa pièce en lui écrivant des emails menaçants. Et après, je voulais tout révéler le soir où il a été tué, lui dire que c'était une blague. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Ah, j'ai noté entre parenthèses, intrigue nulle.
Mais non, mais genre la meuf, elle te fait un prank 20 ans plus tard sur un vieux truc où...
Plus que ça, même 40 ans plus tard.
Où vraiment, elle est restée bloquée sur « j'ai eu peur, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, je me suis pété la jambe », tu fais « mais meuf, mais... » Mais t'as la rancune super tenace, enfin, c'était pas vraiment de sa faute, enfin, je sais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, bref, et donc, effectivement, c'est une sous-intrigue absolument nulle, enfin, c'est une fausse piste qui mène à rien, comme à peu près toutes les pistes du film.
Mais c'est ça, le problème du film, c'est qu'ils ont voulu te mettre 3 milliards de pistes qui n'aboutissent à rien, mais du coup, t'es encore plus perdu dans le fil du truc, mais en fait, c'est des intrigues qui sont nulles. Donc c'est nul.
Surtout c'est... qu'elles sont résolues minute 2. C'est-à-dire que c'est pas comme si on essayait de te filer une intrigue ou un mystère pendant une demi-heure, un truc comme ça. C'est genre, oh, j'ai une nouvelle piste, explorons-la. Ah bah non, c'est pas ça. Ok.
Bon bah suivante.
C'était rapide.
Et là on arrive à une scène. En gros, Dimpy... Elle va emprunter la voiture de Samrat parce qu'elle n'a plus de voiture et qu'elle a un rendez-vous pour faire je sais pas quoi. Et Samrat, il va recevoir un message de menace. Alors, peut-être que c'est le film qui est débile ou moi qui suis super intelligente, mais moi, j'ai capté direct la menace, en fait. Parce qu'en gros, c'est en mode « Oh, A, B, C, il ne faut pas appuyer sur A ou B ou C, je ne sais plus trop, mais il ne faut pas aller en dessous de 50 dans le virage ou je ne sais pas quoi. » Et genre, moi, j'étais en mode « Mais oui, A, B, C, ça correspond à tes 3 pédales, tu sais, dans ta voiture. Et ça veut dire que tu ne dois pas aller au-delà d'une certaine vitesse, sinon ça va exploser. » Et moi, j'étais en mode « Mais percute, Samrat, percute. Pourquoi est-ce que moi, je percute et que toi tu mets un temps infini à percuter l'énigme, espèce d'abruti ?» Et ça m'a trop énervée.
Non mais ça, effectivement, il met 40 ans à devenir le truc. Mais là, on arrive, mais les gars, mais sur l'une des meilleures scènes du film.
Ils ont voulu faire une parodie de Speed, en fait. C'est pas possible autrement. Et ouais, non mais sauf que lui, Samrat, il a pas de bagnole, donc il est obligé de courir et tout. Puis là, c'est vraiment pareil, ils ont voulu copier la série Sherlock quand il doit poursuivre le taxi dans la saison 1, qu'il est en mode « si je passe par là, c'est bon parce que ça me prend pas trop de temps, si je passe par là, ça va me prendre plus de temps et tout ». Sauf que Sherlock, il est censé connaître Londres par cœur. Là, Samrat, il vient d'arriver à Shimla, il peut pas connaître tous les itinéraires.
Non, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que vraiment, la scène... Mais moi, j'étais écroulée de rire sur toute cette scène, et j'ai même marqué, entre parenthèses, il faut en faire un extrait. Parce que... Et du coup, il est déjà prêt, mon extrait, d'ailleurs.
Et, c'est vrai ?
Ouais. Parce que cette scène, qui est censée être genre une méga scène de tension, assez classique, hein, c'est vraiment la bombe sous la voiture, et si tu descends en dessous de telle vitesse, ou que tu vas au-dessus de telle vitesse, elle va exploser, c'est la fin, oh mon dieu, comment faire pour s'en sortir ? Sauf que la scène est molle, les gars, mais d'une force, c'est-à-dire que... Alors du coup, si tu me dis qu'elle doit pas dépasser une vitesse, je comprends un peu mieux. Moi, je pensais qu'elle
devait...
Elle
doit pas aller à 50.
Moi, je pensais qu'elle devait pas être dessous...
Pardon, descendre. Oui, elle doit pas être en dessous de 50 km/h.
Mais oui, mais le problème, c'est qu'elle conduit à 50 km/h. Tu vois bien que lui, il essaye de courir de virage en virage. Mais bon, déjà, il court pas très vite. Mais c'est surtout que du coup, tu vois que la bagnole, elle va super lentement pour que le gars, il fasse genre « Oh mon Dieu, mince, je l'ai loupé vraiment à une seconde dans ce virage. » Sauf que c'est pas crédible, elle roule à la vitesse d'un grand-père ou d'une grand-mère et tout le long c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous faire des trucs, à un moment donné il arrive à la rattraper, il arrive à rentrer dans la voiture et il lui fait « tu me fais confiance, je vous fais confiance » et là ils sautent ensemble et plutôt que de nous faire un espèce de ralenti, ils vont rouler eux-mêmes et tu sens qu'ils se forcent à rouler ensemble sur le bitume et c'est
on est d'accord.
À crever de rire. Moi j'étais mais explosée.
C'est tellement mal fait. Ah bah c'est la voiture qui a explosé après. Hein.
Non mais
déjà... déjà c'est mal fait, mais en plus la meuf elle s'évanouit, genre en mode ah, oh mon dieu, trop d'émotion, je suis une femme alors je m'évanouis. Et du coup
musique
si, bah, ce... La musique tragique, genre, il va se relever, la prendre dans ses bras et commencer à marcher sur la route avec en fond derrière la voiture qui explose et c'est nul.
C'est le cliché ultime.
Bah, cette scène est dans le trailer du coup. Et j'ai vu ça, j'étais ah non, mais vous avez pas le droit de faire ça. Non.
Vous savez, il la tient, mais vraiment, genre comme Batman qui tient la demoiselle en détresse entre ses bras et qui avance au ralenti.
Ou sur l'affiche de Rawan.
Ouais. En plus, avec la musique, mais qui. C'est-à-dire qu'au début, on te fait une musique genre de. Tintin, doudoudoudoudoudoudou. Ouh là là, est-ce qu'ils vont réussir à sauter de la voiture? Oui, vas-y, roule sur moi. Oui, alors là, je roule sur toi pour faire genre il roule. Et là, de ce coup, t'as la musique qui s'en va à la mode. Parce qu'il se lève et t'as l'explosion moche derrière. Et je me suis dit vraiment, genre la musique de héros, et genre c'est moi, je tiens la demoiselle en détresse. Oh mon dieu, mais cette scène est d'un ridicule.
Je suis viril.
Oh, si jamais vous voulez savoir, cherchez le film, allez à 1h33 et c'est là. C'est ce moment-là.
Ah, t'as noté?
Ah oui, je l'ai noté.
Oh là là. Mais, et du coup, on sent qu'après, Dimpy, elle est hyper reconnaissante parce qu'on a ce que j'ai appelé la chanson Dimpy in Love. Elle est, déjà là, elle a des vêtements d'été, hein, je suis désolée. Elle est au bord de l'eau avec sa petite guitare en chantant la la la, tu m'as sauvée, la la la, tu es jolie, la la la. Et moi, j'étais, oh ta gueule, meuf.
Ah oui, non, on est vraiment genre sur, tu sais, la balade genre d'une chanteuse américaine qui sera en mode « Moi et ma guitare au bord de l'eau, il y a le soleil qui se couche, il y a les feuilles
j'ai
d'automne qui volent. »
J'ai trouvé l'amour dans une voiture.
Et sa chanson, c'est en gros « Mon beau héros, mais comment te dire merci, oh là là !» Bref, c'est à mourir de rire. Et j'ai noté avec sa fleur en papier. Ah oui, parce que du coup, elle lui offre une fleur en papier qui s'ouvre. Et justement, il y a écrit sa chanson sur les pétales, là, quand elle l'offre à Samrat.
Il écrit la chanson sur les pétales? J'ai pas fait gaffe. Mais d'ailleurs, c'est quoi? Il y a un mécanisme dans le papier? Comment ça marche, en vrai, ce truc? Parce que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est?
Chut, c'est magique.
C'est magique. Ah bah voilà. Bref, Samrat va aller voir le prêtre du début, sauf que il est mort, assassiné.
Ah, j'aime bien ces gens qui meurent, mais en restant dans leur position.
Ouais.
C'est-à-dire que le gars, il est là, il est en position, il est en tailleur au sol, t'as l'impression qu'il médite, et comme par hasard, au moment où il touche le cadavre, oh, il tombe parce qu'il a un couteau planté dans le dos. Et je me dis, c'est pratique quand même, ces gens, tu leur dis, surtout, s'il te plaît, ne bouge pas trop quand je te tue, t'écrase pas au sol, reste dans ta position pour faire une feinte quand Samrat arrivera, s'il te plaît.
Tout à fait. Et ça va appeler sur le portable du prêtre. Et alors, c'est que là que j'ai capté qu'apparemment, chaque appel de menace, ça provient du numéro de téléphone du jardinier mort.
Ah bon?
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il dit ça un moment, mais j'ai pas compris.
Je sais pas, moi j'ai juste noté un petit coup de telle avec le tueur et RDV au dojo pour un combat de minu. Et alors là, les gars,
et oui.
On passe dans une autre dimension.
Attends, faut d'abord expliquer qui il y a avec Samrat. En fait, on est avec le personnage de Deepak, dont on n'a pas encore parlé depuis tout à l'heure. Et j'ai pas compris qui c'était. J'ai l'impression que c'était un gars qui travaillait avec.
C'est le manager. C'est le manager de l'entreprise.
Ok. Donc, on le voit apparaître, genre, à 2-3 reprises avant. Et en fait, on comprend que c'est lui le méchant. Et que c'est lui le petit garçon dont toute la famille a été tuée par le papa.
Ah bon?
Il y a 26 ans de cela. Oui, c'est lui.
Ah ouais, non mais moi j'ai commencé à filtrer les infos. À ce moment-là, et j'ai vraiment filtré les trucs.
Voilà. Et comme dans toutes les bonnes scènes de baston et de révélation, en fait il va dire « Haha, et oui, je vais te révéler mon plan machiavélique !»
Pendant qu'on se bat à demi nu dans mon dojo, qui est au-dessus du vide, dans les grandes montagnes enneigées de Shimla, et que je suis en tenue comme dans Mortal Kombat.
Mais grave! Et en fait, il va dire oui, parce que j'ai fait ça, parce qu'il a tué ma famille. C'est moi qui ai tué Anuj, parce qu'il avait capté mon plan. C'est moi qui ai tué le prêtre aussi, parce que j'avais envie de garder tout l'argent pour moi, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas moi qui ai tué le père, ni Harry. Harry, j'en avais rien à foutre de sa gueule. Et le père, c'est juste que je voulais lui faire peur, et que je voulais qu'il agonise jusqu'à la fin de sa vie.
C'est ça.
Voilà.
Donc, c'est le classique méchant qui révèle tout son plan pendant qu'ils sont en train de se faire une petite baston. Baston absolument nul, qui est vraiment, mais catastrophique. C'est-à-dire que déjà, le pire.
C'est mal fait.
Ça aussi, j'ai fait un extrait. Alors, je suis désolée, mais c'était beaucoup trop beau. Parce que, alors déjà, il y a des moments où tu sens qu'ils ont des câbles dans le dos. Le côté genre, je me translate à la verticale dans une position de kung-fu tout seul en arrivant sur le rebord de la petite barrière là, qui fait le tour du dojo.
Et il y a des moments... Mais c'est comme dans Happy New Year aussi.
Il y a des moments tu sens qu'ils filment de... À un moment donné, et ça c'est le meilleur, c'est-à-dire que c'est à la fin, c'est genre l'espèce de... Vraiment de dernier échange, de coups de pied, de coups de poing. Et c'est mou, mais c'est si mou, c'est à mourir de rire. Et le gars, il donne un dernier coup de pied, limite s'il s'envole pas tout seul sur 5 mètres, qu'il cogne la barrière, qu'elle s'écroule à moitié. Ah oui, non, c'est parce que d'abord, il y a Samrat qui fait ça, et tu te dis, oh mon Dieu, est-ce qu'il est mort? Je ne le vois plus. Et là, le gars, il remonte, mais alors tout seul, il a des bras super musclés. Mais t'as le méchant qui fait pareil à un moment donné, qui se jette à moitié tout seul dans le vide, en mode « je n'ai plus de raison de vivre », et qui se laisse tomber de façon... Ah, ça aussi, c'est très moche. Et je me suis dit « sérieux, les gars, c'est ça votre hommage aux chutes du Reichenbach de... qui est quand même la scène où normalement, c'est la grande scène où... Sherlock et Moriarty se livrent un combat épique et final et où les deux tombent dans le vide, dans les chutes du Reichenbach. Et tu te dis, mon Dieu, est-ce que Sherlock est mort? Et je me suis dit, c'est ça votre hommage? Putain, le seum.
Ouais, ouais. J'y ai pensé aussi à ce moment-là. Je me suis dit, ah, petit clin d'œil. Et je me suis dit, pareil, mais quel scandale, quel manque de respect, vraiment, ça. Bref. Donc on ne sait toujours pas qui a tué le papa, donc ça veut dire qu'il y a une troisième intrigue. Et retour au manoir hanté, séance de spiritisme pour appeler l'esprit du père. L'esprit du père qui va rentrer dans Watson, qui va dire « c'est Divya qui m'a tué, juste... »
La folle donc. Ouais, parce que si vous avez retenu les prénoms, dites-vous la folle.
C'est ça, la sœur traumatisée. C'est un peu méchant de dire la folle, c'est pas de sa faute, la pauvre.
Non, mais tu sais que je m'attendais à ce que... Alors, on comprend vite que c'est pas une vraie séance de spiritisme. Tu te doutes bien que le but, c'est de confondre le meurtrier en faisant style, oh là là, l'esprit est là pour dire qui l'a tué. Et moi, je m'étais dit... parce que depuis le début, comme elle était là, je m'étais dit, en fait, ils vont nous faire le coup de... Ah ah, mais en fait, je n'étais pas folle depuis le début. Je faisais semblant pour pouvoir tuer les gens sans que l'on m'accuse, en pensant que j'ai un esprit trop fragile. Et non.
Non, non. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as la police qui est là, genre, 5 secondes après, en mode « Ouais, on a un mandat d'arrêt contre elle et tout ça », genre, comme si ça pouvait être crédible et tout. Et là, t'as Sanjay qui arrive et qui dit « Non, c'est pas vrai, elle aurait jamais fait ça, c'est ma petite sœur adorée, elle est trop douce et tout, et gna gna gna, on n'était que tous les deux, c'est nous qui avons trouvé le corps de notre mère et tout ». Parce qu'en fait, on apprend aussi que donc, le papa, il a été marié une première fois, qu'il a eu Sanjay et Divya, que sa femme s'est suicidée, qu'il a eu un deuxième mariage et qu'il a eu Vijay et Dimpy. D'ailleurs, cette femme-là, on ne sait pas où elle est, je pense qu'elle doit être morte aussi. Et en gros, il va dire « C'est moi le tueur, en fait, et j'ai tué mon père parce que c'est à cause de lui que ma mère s'est suicidée, c'est à cause de lui que ma sœur, maintenant, elle est pas très très bien dans sa tête, et c'est moi qui ai tué Harry, qui était mon complice et tout, enfin bref, voilà. »
Mais tu vois, finalement, j'étais contente que ce soit pas aussi évident que ce que j'avais pensé. J'ai bien aimé l'idée que, finalement, le frangin se dénonce en mode « Non, mais j'ai fait tout ça pour venger ma petite sœur qui, finalement, est trop mal à cause de mon père qui est un salaud. » Et du coup, je me suis dit « Oh, ouais, pourquoi pas ?»«
Salaud !» Ouais, mais moi, en fait, quand est arrivée la résolution du truc, j'étais « Ah, c'est ça le truc. »
Et c'est pour ça que, du coup, la fameuse nana, là, tout à l'heure, je te dis Sunita qui le suivait, parce que, justement, t'as la femme... du frangin là qui est coupable, qui a dit qu'elle avait des soupçons sur lui depuis le début, et c'est pour ça qu'elle suivait Samrat pour voir où est-ce qu'il en était dans l'enquête et si elle pouvait essayer de protéger son mari.
Ah, elle a dit ça?
Ouais.
Ah d'accord, non, moi j'ai pas dû écouter, alors je... Bref, ça se termine sur la petite drague avec Dumpy, genre « Ah ah, tu veux mon 06? Vas-y, je te le donne. » Tu m'appelles, hein, promis. Bisous. Et petite scénette pendant le générique où, en gros, il y a je sais plus qui l'appelle pour partir pour une nouvelle enquête, alors que t'as Watson qui voulait rentrer chez lui pour se reposer. Puis c'est la fin. C'est enfin la fin.
Non, et puis t'as aussi quelqu'un qui fait « Oh mon Dieu, ça me rate, mais le corps de Deepak Moriarty n'a pas été retrouvé. »
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Serait-il encore vivant? Reviendra-t-il dans la suite? Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de suite. Voilà, voilà, voilà.
Voilà comment s'achève ce chef-d'œuvre de mystère, de crime, de suspense. Voilà. Non mais vraiment, vraiment, je pense que regardez au moins la fin, juste pour ce combat final, parce que vraiment, c'est golden, vraiment, tellement c'est ridicule, mal filmé. Voilà.
Dans le même genre, regardez aussi le combat, le dernier combat dans Cholet, hein, dont on vous a déjà parlé.
Ah ouais, ben Cholet s'en sortait mieux, hein.
Ah non, mais le coup de pied en l'air là de dans Cholet, moi ça restera à vie, ça. Bon, bah écoute, on va s'écouter une petite musique et on va passer à nos flops.
Oui.
Juste les flops. À tout de suite. Julie,
oui.
J'ai menti. On va pas passer à nos flops. tu vas quand même essayer de me trouver des tops, s'il te plaît.
Alors, eh bien écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, sur un, je ne sais pas...
Sur un malentendu,
parfois, il y a eu des transitions de scènes que j'ai trouvées plutôt pas mal. Alors, elles sont très rares, hein, vous pouvez vous amuser à essayer de les trouver. Mais il y a eu quelques fois, mais du coup, bon, Mélanie ne pourra pas m'enjambe dessus parce qu'elle ne s'en souvient pas. Mais il y a eu des transitions que j'ai trouvées un peu poétiques, qui ne sont pas trop mal et assez intéressantes. Donc, je me suis dit, oh oui, ça, c'est pas trop mal. Et puis, voilà.
D'accord.
Non, parce que franchement, il n'y a rien d'autre à sauver. Hein. Allez, éventuellement... Finalement, la résolution du dernier mystère où ce n'est pas la sœur qui est folle, mais finalement c'est bien son frère qui a voulu la venger, ainsi que sa mère. Bon, je m'y attendais pas trop, mais comme de toute façon j'avais pas trop compris la moitié de qui étaient les gens, quelles étaient leurs motivations, quelles étaient leurs histoires, peut-être que je ne pouvais qu'être surprise, mais donc du coup, ma foi, pourquoi pas, au moins celle-là, je l'avais pas vue venir.
D'accord. Je sais pas, parce que même l'acteur principal, bah, en fait, il parodie, donc on peut même pas vraiment le mettre dans les tops. C'est pas qu'il joue mal, mais bref.
Je rajouterais peut-être la chanson Latino. J'avais noté que je l'aimais bien.
Oui, la chanson de la tequila est pas trop mal, mais à part ça, bah voilà.
Peut-être qu'on aurait dû faire comme eux, prendre de la tequila pour survivre à la suite du film.
On passe au flop ?
Oui !
Alors, je commence ?
Ah bah je t'en prie, je sens que tu en meurs d'envie.
Oui, alors bah, Dimpy, alors je suis désolée, j'ai déjà oublié son nom à l'actrice, mais elle joue comme un pied, hein, c'est genre... Ah mon Dieu !
Non mais vas-y, tu peux l'étendre à tout le monde, ça, en fait. Tu peux dire voilà. Que l'ensemble du casting...
Tout le monde joue mal.
Et tu
l'ensemble
cata.
Du casting est un désastre, mais voilà, Dimpy, enfin, elle est nulle. Le pseudo Watson, c'est une catastrophe, mais vraiment, c'est une insulte, en fait, à la mémoire de Conan Doyle, vraiment. Là, c'est très très grave, ce qui se passe. Non, c'est dégueulasse, c'est un manque de respect, c'est genre, vraiment, pisser sur sa tombe, ça aurait été plus respectueux, à la limite. Tellement, c'est une catastrophe. Les effets spéciaux, il n'y a rien qui va, c'est vraiment dégueulasse, c'est immonde. Franchement, quand vous avez certaines scènes qui se passent au niveau du balcon du manoir, ça se voit tellement que c'est une incruste moche, mais c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Ensuite, ils ont trahi la mémoire de Conan Doyle, encore une fois, en te faisant un Sherlock un petit peu dragueur qui a envie de se taper d'impi à la fin, donc ça, non. Les sous-intrigues emberlificotées, mais oh, n'importe quoi. Et j'ai envie de te dire, quelle était la probabilité pour que les trois intrigues, donc les menaces de mort, le meurtre et la petite vengeance de Deepak, quelle était la probabilité que tout ça se déroule exactement en même temps, sans que personne ne soit au courant. Je veux dire, la vie est bien faite quand même, dis donc.
Ah bah déjà. Oui.
Et en fait, le film te perd. Alors, je comprends que quand tu regardes un truc policier, la résolution de l'énigme va pas t'apparaître comme ça, sous le nez en 30 secondes, et que tu peux avoir différentes pistes et tout, les explorer. Mais là, c'est emberlificoté et c'est mal fait de ouf. Tu comprends rien. Tu sais même pas qui sont les gens. Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun suspense. Il n'y a pas assez de drama. Et le côté comique est chiant et gâche absolument tout, en fait. Moi, j'ai pas l'impression de suivre une énigme, j'ai juste l'impression que... Je sais pas, qu'on essaye de faire un escape game rigolo, limite, mais pas d'être sur une énigme sérieuse. Puis encore une fois, le personnage de Sam Rat qui te parodie Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch juste parce que ça a marché, alors on essaye de faire la même chose. Mais non, là, ça ne marche pas, gars. Ça ne marche pas. C'est un désastre.
Ah mais je ne peux qu'approuver. Franchement, ça faisait longtemps qu'on s'était pas tapé un navet pareil. À la limite, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de côté problématique, dans le sens où il n'y a pas de message vraiment très gênant. C'est juste que c'est un navet au possible. C'est une cata sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est moche, c'est mal produit. Hein. Les images sont elles-mêmes moches. Les décors sont une cata, parce que tu l'as dit toi-même, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'incrustations sur fond vert qui sont mal faites. Enfin, je veux dire, les gars sont même pas capables de faire semblant de conduire à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, peut-être c'est ça les castings qu'il faut passer au départ, tu vois, en truc éliminatoire. Est-ce que vous arrivez à faire croire aux gens que vous conduisez une voiture quand vous ne conduisez pas vraiment une voiture? Parce que là, c'est d'un niveau enfant quand même, c'est assez affligeant. Et donc, il y a ça, le casting est globalement une catastrophe. C'est... Généralement, c'est... C'est ça qui annonce un film qui va pas le faire. C'est-à-dire que quand tu regardes la liste des acteurs, ou quand tu les regardes et que tu fais « c'est marrant, je t'ai jamais croisé ailleurs », tu sens que c'est parce que le film va être une daube. Et effectivement, c'est même pas une parodie, parce que ça se prend au sérieux et qu'en fait, c'est nul. Ils ont voulu s'inspirer effectivement de Robert Downey Jr. et de Benedict Cumberbatch. Et puis en fait, c'est... Oh là là, c'est... C'est mauvais, c'est même pas bien copié. Ils auraient mieux fait de tenter de lui donner sa propre personnalité. Le Watson est imbuvable. T'as juste envie de lui dire, mais casse-toi, mais loin, 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 loin. Et donc du coup, ça se veut drôle, mais ça l'est pas. Il y a beaucoup trop de personnages qui sont très mal introduits. Donc tu passes ton temps à regarder le film en disant, je sais pas qui t'es, toi, mais bon, on va te dire ok. C'est... Jamais, pourtant, d'habitude, j'arrive à être un minimum concentré ou à retenir les noms, ou je sais pas. Mais là, vraiment, t'es un peu en mode, je sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu viens, qui es-tu? Et du coup, c'est en plus tellement mal expliqué que tu passes ton temps à dire, alors j'ai pas trop compris, est-ce que c'est le voisin qui a tenté de récupérer l'argent? Est-ce que c'est la voisine qui a fait un prank? Et toi, t'es qui? Et c'est quoi l'histoire? Ah bon, il y a quelqu'un qui est mort? Ah, moi, il y a des... Quand t'as vu, on en a parlé, tu te rends compte qu'il y a des morceaux qu'on n'a pas retenus l'une et l'autre, où tu te dis, ah bon, il s'est passé
mais
ça?
Oui.
Tellement c'est le foutoir. Et voilà, c'est très mal écrit, très mal produit, très mal réalisé. Enfin bref, c'est franchement une bouse, hein, voilà, on peut le dire.
Voilà, donc ne le regardez pas, contentez-vous de notre épisode, c'est largement suffisant.
Ah oui, oui, oui. Sauf pour la fin, je vous dis, pour voir le niveau vraiment de ce combat de kung-fu dans les airs, c'est... Wouh.
Mais c'est pareil, le mec qui joue Deepak, il joue mal aussi, c'est une catastrophe.
Ah ouais, non, mais je sais pas s'ils ont fait leur cours de théâtre, hein, mais...
C'est la cata. Quelle note tu donnerais?
Ah bah c'est pas problématique, mais c'est nul, donc ça vaut un 10. Enfin, franchement, j'ai même envie de le passer en dessous, tellement c'est mauvais.
Mais moi aussi.
Franchement, je pense que je vais le passer en dessous parce que j'ai même pas envie de te dire que c'est une adaptation d'un Sherlock Holmes parce que ça fait que repomper d'autres films, dont Happy New Year. Et ça a même pas la finesse d'une enquête de Sherlock, quoi. C'est vraiment grossier.
C'est très grossier. Oui.
C'est. Oh, je veux dire, même toi, quand tu fais une partie de Cluedo, c'est plus ficelé que ça, quoi. Donc.
Et oui. Mais en fait, ils ont voulu te perdre dans des différentes intrigues et tout, tu sais, genre pour semer le doute dans ton esprit. Sauf que là, ça marche pas. C'est juste que tu comprends pas où le film veut t'emmener. Ok, t'as plusieurs intrigues, ça c'est bon, mais elles sont tellement mal foutues, tellement mal écrites et mises en scène que t'as même pas envie de chercher, tu comprends rien.
Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, à part quand ça te tente de faire un clin d'œil sur le Jomo Watson et puis sur les chutes du Reichenbach, franchement, il n'y a rien de vraiment typique de Conan Doyle. Donc vraiment, comme c'est bien nul, bon allez, on va dire 5.
Ah ouais, t'es sévère.
Bah franchement, non, c'est mauvais, il n'y a rien à sauver.
Mais oui. Je pense que je vais être un peu moins sévère, je vais mettre 8, allez. Mais tu sais, je me dis, la scène de spiritisme, est-ce qu'ils se sont pas inspirés de ça parce que, justement, Arthur Conan Doyle, en vrai, pratiquait le spiritisme et apparemment, il croyait très très fort, il faisait beaucoup de... Donc je me demande si ça aussi, c'était pas un clin d'œil également.
Ouais, sûrement, c'est vrai que c'est une époque où le spiritisme marche à fond. La cocaïne aussi. mais c'est un ressort hyper classique quand même des grandes enquêtes, surtout quand on essaie de les mettre à l'époque victorienne, où justement on te fait style pour confondre le meurtrier, on va faire une séance de spiritisme, et oh là là, comme par hasard, l'esprit de la famille est là, il va pointer du doigt son meurtrier, et ça permet de confondre, parce que soit la personne te dit mais non, c'est faux, soit quelqu'un d'autre va en profiter pour l'accuser encore plus, enfin, c'est un ressort un peu classique quand même.
Oui, c'est vrai, mais enfin, ils avaient pas d'idée, donc...
Ouais, je sais pas s'ils en sont à ce point-là d'arriver à faire des clins d'œil
sur
la vie de Conan Doyle.
Mais, vous l'aurez compris, plutôt que de regarder ce film, regardez les séries, ou lisez les livres, qui sont quand même extraordinaires, ça a eu un impact dingue. Par exemple, c'est Maurice Leblanc, donc le créateur d'Arsène Lupin, qui a écrit un roman qui s'appelle Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, je crois. Parce qu'il voulait utiliser apparemment le vrai nom j'arrive plus à parler, Sherlock Holmes, sauf que apparemment Conan Doyle n'était pas très content qu'il utilise le nom de son héros, du coup, il l'a renommé. Mais voilà, c'est où j'avais envie de dire ça, c'était la petite histoire. Parce qu'il est dans ma bibliothèque et qu'il faut que je le lise.
Ouais, mais il y a plein d'auteurs comme ça qui s'en sont inspirés. Bah, je le sais parce que je viens de me retourner pour regarder le titre dans ma bibliothèque. Il y a Bob Garcia, évidemment.
Oui, on a des romans toutes les deux de Bob Garcia.
Qui n'est pas extraordinaire. Mais...
Non, en vrai, c'est sympa, mais le style est assez pauvre en comparaison de celui de Conan Doyle. En vrai, c'est sympa, si jamais vous avez l'occasion de le lire, ça vaut le coup quand même, mais c'est pas extraordinaire non plus.
Ouais, il y avait aussi, c'est Horowitz, il me semble, qui a écrit Le ruban de soie.
Je connais pas.
Je suis en train de vérifier, mais oui, il me semble que c'est ça le titre. Je suis en train de regarder derrière moi. Pareil, alors du coup, il a voulu faire une aventure avec Sherlock et Watson. De mémoire, j'ai pas spécialement aimé. Enfin, en fait, le truc, c'est que je sais pas si ces gens qui écrivent, en fait, arrivent vraiment à capter qui sont Sherlock et Watson. Des fois, t'as l'impression qu'ils se basent juste sur ce qu'ils se souviennent à peu près des personnages.
Ouais.
Et que, bon, ils en font juste des enquêteurs qui sont dans des affaires un peu louches. Il y a eu beaucoup aussi, parce que, alors ça me fascinait aussi, parce que c'est l'époque victorienne, c'est la même période, parce que la période dans laquelle a été écrite Sherlock Holmes, c'est celle de Jack l'Éventreur, puisque la grande période où a sévi Jack l'Éventreur, c'est 1885, et du coup, les aventures de Sherlock, en général, sont, vers 85, 88, 87, 88. Et du coup, t'en as beaucoup qui ont essayé aussi de faire des histoires qui mélangent Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle
Bob
ça.
Garcia,
bah oui, c'est lui du coup qui a fait Sherlock Holmes
Bob
contre
Garcia, oui.
Jack l'Éventreur, c'est ça?
Oui, 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 je l'ai lu.
Voilà. Et ben c'est pour ça qu'il m'avait hypé d'ailleurs le bouquin, je pense que toi aussi, en termes de titre.
Oui.
Et qu'après tu fais, ouais,
oui,
bon.
Oui, oui, oui. Oh non, non, c'est sympathique.
C'est oui,
sympathique.
Voilà,
c'est pas
mais
mauvais,
c'est pas
mais...
d'un niveau...
Non, bah en fait, le truc, c'est que des fois, t'as pas mal de répétitions, t'as des dialogues parfois qui sont pas très, très bien écrits et tout, mais...
Voilà, donc non, on sent que c'est un personnage qui a quand même beaucoup inspiré d'auteur.
Mm-hmm.
Et puis évidemment, d'adaptation, série, film, tout ça. Mais bon, je suis quand même contente de me dire qu'il y a au moins des adaptations qui sont bien, donc comme celle de Ritchie et celle de la BBC. Puisqu'effectivement, en termes de roman, bon, c'est pas encore trop ça.
Tout à fait.
Voilà, voilà.
Bah écoutez, on va se quitter là, sauf si t'as autre chose à nous dire, Julie.
Bah non, je pense que tout est bon.
Bah dans ce cas-là, tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut nous joindre.
Tout à fait. Alors, vous pouvez nous écrire au 221B Baker Street. Pas sûr qu'on arrive à vous répondre, mais... Et bien, vous pouvez nous écrire à bollywoodversus@gmail.com ou nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta bollywood-versus et sur Twitter bv-podcast.
Très bien, Julie. Tu as bien appris ta leçon.
T'as vu, je la connais mieux que toi.
Oui, c'est vrai. Tu as un bon point.
Donc voilà, n'hésitez pas, ouais, laissez-nous des petits messages, ça fait plaisir. Ou laissez-nous des commentaires et des étoiles, je sais pas, sur iTunes. Spotify le fait aussi maintenant, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas.
Ouais, parce que ça nous permet d'avoir un retour sur notre travail, comme ça. Et c'est bien pour nous, comme ça on peut s'améliorer s'il y a des choses qui ne conviennent pas.
Tout à fait.
Et bah sur ce, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Et on vous fait des gros bisous, puis on se dit à dans 15 jours pour un film peut-être un petit peu mieux, on l'espère.
Bah, franchement, la barre est tellement basse, je ne sais pas.
Ça peut être que
ça
mieux.
Ça peut être que mieux. Allez, et ben bon visionnage, lisez Sherlock Holmes, et puis à dans 15 jours, bye bye.
Et Agatha Christie, bye bye.